Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du mardi 23 novembre 2021. Je vous donne les titres de l'actualité. Nous parlerons d'abord de la séparation pour aider son enfant à grandir. Je vous lirai donc les conseils de Véronique Lemoine-Cordier, conseils qu'elle a donnés à l'Invisible numéro 40. Véronique Lemoine-Cordier est psychologue et psychothérapeute. Nous allons ensuite parler un petit peu du nouveau missel romain qui va transformer un petit peu notre prière dominicale. Je vous lirai l'article de Xavier Accard, directeur de Prier Magazine. En culture chrétienne, je vous présenterai deux livres parus aux éditions Artege, enfin, dont l'un va paraître en début d'année prochaine. Tout d'abord, justement, présentation du nouveau missel romain en langue française, donc publié par le Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Je vous lirai quelques extraits d'introduction du cardinal Sarah. Et enfin, je vous présenterai très brièvement le dernier livre du père Joël Guibert, Le secret de la sérénité, qui paraîtra le 5 janvier 2022. Le père Joël Guibert se met à l'école de Saint-François de Sales pour que l'on approfondisse et vive davantage notre confiance en Dieu. Nous commençons cette revue de presse avec l'éducation, la séparation et la croissance des enfants. Donc croissance, bien évidemment, dans le sens où l'enfant s'achemine vers l'âge adulte, pas seulement sur le plan biologique. Je vais vous lire les conseils de Véronique Lemoine-Cordier qui nous dit que se séparer de son enfant, plus ou moins longtemps, sans l'avoir préparé, peut être le point de départ de troubles récurrents pour lui. Et peut-être que de nombreux parents y sont confrontés aujourd'hui. Cela donnera lieu à une angoisse de séparation qui peut devenir très handicapante et qui rejaillit souvent sur la famille entière. Grandir, c'est ce qui rend l'enfant heureux et donne un sens à sa vie. Pour cela, il doit se savoir et se sentir aimé. Mais comme le souligne la psychanalyste Claude Almos, l'amour ne suffit pas. Les parents doivent fixer les règles indispensables à toute éducation, sans crainte d'interdire. Dès son plus jeune âge, un enfant doit être mis devant sa liberté de choix, car elle constitue une condition indispensable pour gagner en autonomie et en responsabilité et accéder ainsi à la maturité affective. Les adultes doivent proportionner les choses en fonction de leur enfant, de son âge, de sa maturité. Ils feront sans cesse du sur-mesure. Un enfant rechigne souvent à obéir, d'une part parce que les contraintes de la vie quotidienne ne lui font pas du tout plaisir, et d'autre part parce que les ordres et les directives qu'il entend lui donnent peut-être l'impression d'être un pion sur l'échiquier. Il y a toujours deux temps à respecter pour demander à un enfant d'obéir. Un temps pour s'adresser à son intelligence, donc en proposant le but, et un temps pour s'adresser à sa volonté. Le veux-tu ou le choisis-tu? Le désires-tu? Le décides-tu? Là se joue sa liberté. Il peut répondre oui ou non, mais il devra en vivre les conséquences. On peut comparer les règles de l'éducation aux rails de sécurité qui bordent une route surplombant un ravin. Ils ont été installés pour éviter que les automobilistes ne tombent dans le précipice ou ne se télescopent avec d'autres véhicules. De la même façon, les limites imposées à un enfant visent à le cadrer, à le contenir, afin qu'il se sente sécurisé et respecte les autres. Il aura tendance à les tester, surtout s'il est précoce sur le plan intellectuel. Les parents ne doivent pas lâcher, mais se tenir à ces règles avec amour et fermeté. Donc, comment apprendre à se séparer? Chaque existence est jalonnée de multiples séparations. Il est donc nécessaire de promouvoir une éducation à la séparation, celle-ci étant incontournable et indispensable à la croissance. Le rôle des parents est d'aider leur enfant à accepter de passer par là, non pas sans douleur, mais sans angoisse. Les étapes les plus délicates, où il convient donc d'être très attentif, sont la naissance, le sevrage, notamment donc quand on parle de l'arrêt de l'allaitement, l'entrée à la crèche pour certains, et plus tard à l'école, certaines absences des parents, d'éventuelles hospitalisations, la naissance de l'enfant suivant, qui va être voleur de câlins, voleur d'amour et enfant de remplacement. L'angoisse de la séparation maintenant. Bien vécue, une séparation peut être douloureuse et désagréable, mais n'engendre pas de troubles. A contrario, mal vécue, elle peut être le départ d'une angoisse de fond qui va conditionner peu à peu l'existence d'un enfant. C'est comme si un nœud se formait dans son cœur un nœud qui lui fait de plus en plus mal au fur et à mesure que les séparations successives inexpliquées tirent dessus. C'est ce qu'il exprimera au travers de différents troubles. Réveils nocturnes répétés, difficultés alimentaires, énurésie, maladies répétitives, verbiage incessant, insatisfaction, peur de l'échec, refus de l'effort, insolence, perfectionnisme. Ces comportements divers constituent des réactions multiples et variées à une angoisse qui taraude l'enfant, petit ou déjà grand. La majorité de ces troubles trouvent son origine dans une angoisse de séparation qui a germé dans le cœur de l'enfant, généralement au tout début de sa vie, dans des circonstances traumatisantes ou lors de séparations auxquelles il n'a pas été suffisamment bien préparé. Face à ces troubles de l'enfant, il y a deux questions importantes à se poser. Quel message mon enfant cherche-t-il à me délivrer à travers ces troubles? Quelles paroles rassurantes, calmantes et pacifiantes puis-je utiliser pour l'aider à changer son attitude? Jusqu'à 8-9 mois, il est fortement conseillé d'éviter toute séparation de plus d'une journée. Jusqu'à cet âge-là, il est mieux d'être avec maman car la permanence des liens d'attachement et des repères est réellement importante pour la construction affective d'un enfant. C'est neurologique. Le cerveau n'a pas encore acquis cette notion de permanence, d'où l'extrême importance de signifier les séparations et de les limiter. Après, il est important de préparer progressivement toutes les séparations, en commençant par faire vivre à son enfant des expériences de toutes petites séparations. Trop de changements déroutent un petit. Lorsqu'il est un peu plus grand et ne va pas encore à l'école, il est bon de trouver à l'enfant des lieux de rencontre et d'éveil, si possible sans sa maman, en lui permettant de s'adapter à la séparation de façon progressive mais ferme. La séparation fait peur. Elle doit pourtant être provoquée et enseignée. Certains enfants deviennent des enfants tyrans, faute d'avoir pu découvrir que leurs parents ne sont pas corvéables à merci, totalement disponibles, ni à disposition dans tous les endroits possibles. Le but poursuivi dans cette pédagogie est de permettre à l'enfant de prendre sa vie en main, de choisir de grandir, de faire ce qui est bon pour lui. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants parfaits, sages comme des images, mais des enfants vivants, qui comprennent comment ils fonctionnent et prennent en main leur destinée, parce qu'ils ont compris dès leur plus jeune âge qu'ils sont faits pour grandir, pour être heureux et que le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se construit par la décision de la volonté, éduquée à la liberté véritable. Je vous donne donc quatre clés pour apaiser les troubles de l'enfance. La première, séparation mode d'emploi. Il faut préparer les séparations inhérentes à toute vie afin que votre enfant puisse les vivre le plus sereinement possible, ce dont il a été question dans cet article. Pour cela, il faut lui dire ce qui va se passer de façon simple et concrète, le rejoindre dans ce qu'il pourrait croire à tort, le rassurer sur cette séparation à venir, lui montrer qu'il est en sécurité malgré une tristesse légitime. À votre retour, soulignez que vous êtes revenu, comme promis, même loin de lui. Vous avez continué à l'aimer, toujours autant. Le fait d'être séparé ne présentait aucun danger, et d'ailleurs, tout s'est très bien passé. Deuxième clé, reparler d'une séparation douloureuse à son enfant. Si certains troubles affectent votre enfant, et si vous soupçonnez une angoisse de séparation, vous pouvez aider votre enfant à dénouer ce qui le ronge en partant de son anamnèse. Vous essaierez ainsi de retrouver là où les premières séparations qu'il n'a pas bien pu comprendre et qui continuent aujourd'hui à l'angoisser, à envahir sa pensée et son psychisme sous des formes variées. Troisième clé, relire son histoire avec l'enfant. Faire une anamnèse consiste à rechercher dans l'histoire de la vie de l'enfant depuis sa conception ou avant, s'il y a eu fausse couche, IVG ou autre événement important, tout ce qui a pu marquer la maman d'une façon ou d'une autre pendant sa grossesse, que ce soit en lien ou pas avec l'enfant. Comment s'est passée la naissance? L'enfant est-il né à terme, naturellement, avec forceps, par césarienne? Quelles ont été les particularités des premiers jours de l'enfant? A-t-il été confié à la pouponnière? Était-il prématuré? Et a-t-il effectué un séjour en néonatologie? Quelle a été la première fois, au cours des deux ou trois premières années de l'enfant, où il a pu être confié à quelqu'un plus d'un jour et combien de temps? S'il y a eu deuil, déménagement, hospitalisation, reprise de travail, tout ce qui a pu ainsi se passer jusqu'à ses 2-3 ans ou jusqu'à la naissance du suivant, de façon très chronologique, pour le raconter d'abord factuellement, à l'enfant. Une fois que les faits ont été énoncés, il s'agit de rejoindre l'enfant et lui dire comment il a vécu cet événement, ce qu'il a cru et continue à croire, mais qui n'est pas la réalité. Et enfin, quatrième clé, chercher de l'aide pour son enfant. Certains parents ont peur de faire appel à un spécialiste, ayant l'impression d'envoyer leur enfant chez les fous. Effectivement, demander de l'aide est parfois difficile, mais ne signifie aucunement que l'enfant a des troubles psychologiques majeurs ou sera stigmatisé par ce passage chez le psy. De la même manière que l'on consulte un dentiste pour une rage de dents ou un médecin pour une grippe, il est bon de faire appel à un professionnel plus neutre et plus dépassionné que les parents dans certaines situations éducatives déroutantes ou complexes. C'était donc l'article et les conseils de Véronique Lemoine-Cordier, psychologue et psychothérapeute, donc, qu'elle a donné à l'Invisible numéro 40 sur « Aider mon enfant à grandir dans la séparation ». Nous allons maintenant nous tourner vers le nouveau missel romain dont la nouvelle traduction vient de sortir et donc de transformer notre prière dominicale. Dans l'article que je vais vous lire maintenant, je vous parlerai des principaux changements, tout simplement, pour faire nôtre ces nouvelles expressions. Voici donc l'article de Xavier Accard pour Prier Magazine de ce mois-ci. La messe est une école de notre prière personnelle. Ces mots nous forment et nous aident à approfondir le mystère de la foi. Aussi, l'entrée en vigueur d'une nouvelle traduction du missel romain, ce premier dimanche de l'Avent, est-elle un événement ? Il serait difficile d'évoquer tous les changements qu'elle apporte. Mais découvrons les principaux qui concernent le répertoire des fidèles pour mieux nous les approprier et participer activement à la liturgie. Tout d'abord, le « Je crois en Dieu ». Cette prière doit être l'objet de la méditation de notre cœur, affirme saint Ambroise de Milan, car elle met en nous ce que nous devons croire et confesser pour être sauvés. D'où l'importance que ces termes soient le plus juste possible. De grands penseurs catholiques, comme Jacques Maritain, Étienne Gilson, Henri de Lubac, avaient critiqué la traduction d'un article du symbole de Nicée-Constantinople, l'une des deux versions du credo. L'expression « de même nature que le Père », appliquée au Fils pour rendre le latin « consubstantialem patri », leur semblait insuffisante. Cette expression n'affirme en effet pas assez clairement que le Père et le Fils sont un seul Dieu unique. Une mère et sa fille partagent la même nature humaine, mais elles sont deux femmes différentes. Le Père et le Fils partagent pour leur part non seulement la même nature divine, mais la même substance. L'affirmation consubstantielle au Père confessera désormais plus nettement que les personnes de la Trinité sont le Dieu unique. Ensuite, la distinction des ministères. Le changement le plus visible de cette traduction se trouve au début de la prière sur les offrandes. Elle concerne ce qu'on appelle l'orate fratres. L'ancienne version ne traduisait pas le missel romain, mais avait inventé une formule qui pouvait être conservée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le célébrant priera désormais de préférence « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. » Et nous répondrons « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. » Ces paroles donnent à comprendre que la messe n'est pas qu'un repas partagé, mais participation au sacrifice du Christ. Elle souligne également la distinction entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le sacerdoce commun de chacun des baptisés. Ensuite, le féminin et le masculin. La nouvelle traduction s'adapte également à la mentalité contemporaine qui, plutôt qu'englober femme et homme dans un terme générique, préfère utiliser deux termes distincts. Ce faisant, elle adopte une façon de faire qui existait dans certains passages du texte latin. Ainsi, dans le « Je confesse à Dieu », nous dirons « Je reconnais devant vous, frères et sœurs, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. » Cette nuance se trouve aussi dans l'orate fratres ou dans la prière eucharistique, hein, encore appelée canon, au cours duquel le célébrant dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. » Ensuite, le ou les péchés. Dans le Gloire à Dieu, comme dans l'Agneau de Dieu, nous ne dirons plus que le Christ enlève le péché, mais les péchés du monde. L'ancienne expression pouvait laisser croire à une sorte de fausse déculpabilisation. Le péché du monde existe en effet parce que nous commettons des péchés personnels, et ce sont eux que le Christ vient racheter en mourant sur la croix. Et enfin, au-delà des mots, le nouveau missel met également l'accent sur des éléments non-verbaux pour renforcer la dimension contemplative de la messe. Ainsi engage-t-il à respecter un nouveau moment de silence, juste après le Gloire à Dieu, qui s'ajoute au temps de recueillement déjà prévu au moment de la collecte après les lectures, l'homélie et surtout la communion. Lors de la consécration, juste après l'élévation, cette nouvelle édition précise aussi que le prêtre fait une génuflexion en adorant. Dans le credo, il recommande d'incliner la tête pour marquer l'abaissement du Verbe qui s'est fait chair lorsque l'on dit « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme » dans le symbole de Nicée et « Qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie » dans le symbole des apôtres. Par ce geste, qui devient agenouillement lors de la messe de Noël, nous adorons le Verbe et entrons nous-mêmes dans son mouvement d'abaissement. Je vous donnerai davantage de précisions quand je vous lirai dans quelques instants l'introduction donc du cardinal Sarah. Je vous retrouve après une courte pause musicale pour la culture chrétienne. À tout de suite. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter donc justement le livre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements qui vient de paraître aux éditions Arthège, intitulé « Présentation du nouveau missel romain en langue française ». Donc je viens de vous parler de l'article de Xavier Accard sur les principaux changements dans la prière dominicale avec ce nouveau missel. Donc il faut savoir que la publication de cette nouvelle traduction française est l'occasion d'offrir aux fidèles une introduction historique et catéchétique à ces textes qui nourrissent leur foi lors de la liturgie de la messe. Mieux connaître et mieux comprendre la liturgie permettra à chacun de mieux aimer le Christ réellement présent dans chacune des célébrations eucharistiques. Je vais maintenant vous lire un extrait de l'introduction du cardinal Robert Sarah. Mais que signifie accueillir la présence du Seigneur dans nos vies? Est-ce seulement applaudir, crier de joie, voire danser devant lui et l'accueillir avec de beaux chants de louanges et d'actions de grâce au milieu d'une vie chrétienne médiocre et routinière? Il ne s'agit pas ici de mettre en cause le fait que nos célébrations eucharistiques doivent être empreintes d'actions de grâce, d'allégresse et de joie. L'Eucharistie, et son nom l'indique, est une action de grâce et cette dimension lui est essentielle. Mais l'accueil des croyants ne saurait se réduire à cette action de grâce. La célébration eucharistique n'est pas uniquement un chant de gratitude et de bénédiction. Elle l'est bien sûr. Mais elle est bien plus que cela. Et il n'y a qu'action de grâce, exubérance festive et cri de joie pendant la célébration de la messe. Il n'y a pas encore un véritable accueil. Car l'accueil est essentiellement un oui d'obéissance, un oui d'entrée généreuse dans la proposition de Dieu. L'accueil est réponse à la présence d'amour de Dieu. L'accueil est obéissance. Il est écoute et adoration silencieuse de Dieu. Acquiescement à la parole faite chair et qui se donne en nourriture pour que notre existence en soit radicalement transformée. Mais soyons certains que l'accueil de Jésus ne peut pas surgir de l'Eucharistie à la fois subitement et spontanément. Il est inséparable de la qualité de vie qui a précédé la célébration eucharistique. Cette qualité de vie, qui va être comme le reflet de la présence du Christ, donnera sa pleine expression dans un accueil diffus dans l'existence quotidienne. Ainsi, toute notre existence sera comme une dilatation de l'Eucharistie et de la présence du Christ au milieu de nos frères et sœurs. Il est extrêmement difficile, éprouvant même, et presque impossible, de prendre part à la célébration eucharistique quand notre vie chrétienne est médiocre, et résolument et volontairement embourbée dans la routine, la tiédeur, l'agressivité, la haine, la rancœur, l'égoïsme et l'orgueilleuse prétention et conscience de notre supériorité. Bossuet a écrit « Celui qui reçoit l'Eucharistie ayant la haine dans le cœur contre son frère fait violence au corps du Seigneur. » Je me permets d'insister sur ce point qui est très important. La présence eucharistique est un don de Dieu qui veut mener à sa pleine maturation notre obéissance quotidienne envers Jésus, le Seigneur de la gloire. Et nous ne pouvons pas accueillir la présence eucharistique dans toute sa plénitude si dans le quotidien de nos vies, nous ne cherchons pas déjà le Seigneur pour devenir ses amis. Nous pourrions nous tenir perpétuellement devant la présence réelle offerte de Jésus-Eucharistie, cette présence désireuse d'un accueil et d'une réponse de foi et d'amour. Nous ne ferons jamais l'expérience de cette présence si nous n'allons pas à elle avec un cœur qui croit, obéit, reçoit et aime. Si nous ne nous tenons pas devant la présence eucharistique dans un esprit d'alliance. Jésus nous offre et nous propose son corps et son sang sacramentel. Telle est la grandeur de l'Eucharistie. Le Seigneur s'offre. Le Seigneur propose son sacrifice de serviteur. Il vient à notre rencontre sans s'imposer. Et il attend notre accueil sincère, dans un cœur libéré de tout péché et dégagé de tout obstacle. Avant de commencer la célébration eucharistique, il est essentiel que tous prennent un long temps de prière dans le silence. On veillera donc à arriver avant le début de la messe pour se recueillir en présence de Dieu. C'est d'abord de la responsabilité du prêtre qui va célébrer la Sainte Messe et aussi de ceux qui exercent des fonctions liturgiques, car on ne peut transmettre que ce que l'on vit soi-même. Le prêtre doit être capable de vivre le silence qui s'enracine dans l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie sacerdotale. Cela lui demande de prendre suffisamment de temps avant le début de la célébration pour bien s'y préparer, dans le calme, en rompant avec l'agitation du monde extérieur. Souvenons-nous du Saint curé d'Ars. Il disait qu'il faut au moins un quart d'heure pour se préparer correctement à célébrer les saints mystères. Lui-même se préparait à la célébration de l'Eucharistie par un long moment d'adoration. Rien ni personne ne pouvait empêcher ce temps-là. Benoît XVI note dans son fameux ouvrage « L'esprit de la liturgie » Les prières silencieuses du prêtre le préparent à se pénétrer personnellement de sa tâche et à se donner au Seigneur dans la totalité de son propre moi. Et la présentation générale du missel romain précise « Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement. » Le silence sacré est donc indispensable pour prendre conscience que l'on se tient devant Dieu. En effet, le silence de l'homme face à Dieu est un silence d'écoute attentive, à l'image du jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Il permet de s'unir spirituellement, profondément, personnellement aux paroles prononcées par le prêtre, notamment celles de la prière eucharistique. De son côté, le prêtre doit veiller à la manière de dire les oraisons et la prière eucharistique afin d'aider la communauté à les vivre profondément, à prier, à entrer dans la supplication ou la louange. Respecter des pauses de silence fait partie de cet ars celebrandi, ou art de bien célébrer. Jésus est notre modèle. À plusieurs reprises dans les évangiles, il se retire dans la montagne ou un endroit désert, dans la solitude et le silence pour être avec Dieu son Père. Jusqu'à la veille de son grand sacrifice sur le Golgotha, il a passé toute la nuit à se préparer à ce don de soi-même à Dieu et pour notre salut, dans le silence et la prière. Tous, il nous faut nous préparer ainsi à célébrer le saint sacrifice de l'Eucharistie, en entrant dans un grand silence intérieur, un recueillement sacré. Romano Guardini disait « Si quelqu'un me demandait où commence la vie liturgique, je répondrais « Avec l'apprentissage du silence ». Sans le silence, tout manque de sérieux et reste vain. Et dans la vie d'un véritable chrétien à la recherche de Dieu, dès que le silence revient, on voit aussitôt réapparaître son compagnon obligé, le recueillement. Le silence triomphe du bruit, des bavardages et de la superficialité. Le recueillement est la victoire remportée sur la dispersion, la nervosité et l'inattention. Se recueillir signifie plus qu'éviter de se laisser distraire par des impressions ou des occupations diverses. Seul un homme recueilli est vraiment quelqu'un. On peut s'adresser à lui. Dieu peut s'adresser à lui et lui seul peut répondre de manière consciente et responsable. Lui seul est vraiment atteint par les rapports de la vie. Lui seul peut dialoguer avec le silencieux, Dieu lui-même. Et la liturgie ne devient possible qu'à partir du recueillement. Il n'y a pas grand-chose à attendre des conférences sur les textes sacrés, sur les symbolismes profonds et le renouveau liturgique si cette condition primordiale n'est pas remplie. Prendre Dieu au sérieux en l'accueillant dans le silence, le recueillement et une filiale révérence. Une âme recueillie est la première des choses à posséder si l'on veut célébrer réellement la Sainte Liturgie. Mais ce recueillement ne se produit pas tout seul. Il doit, comme le silence, être l'objet d'un vouloir et d'un exercice. La première chose que nous avons à faire, c'est de créer le calme en nous. Nous devons devenir vraiment présents. Nous devons tenir ensemble nos pensées et notre âme et se dire « Maintenant, je suis ici. Je n'ai rien d'autre à faire qu'à participer à la célébration sacrée de la Sainte Messe. Cela seul importe, maintenant, et j'y suis tout entier. Et Dieu est ici, avec moi, et avec toute l'assemblée des croyants réunis dans la même foi. » C'était, chers auditeurs et auditrices, quelques éléments d'introduction donnés par le cardinal Robert Sarah, donc dans la publication de la présentation du nouveau Missel romain en langue française, paru aux éditions Artege. Je finis cette revue de presse très brièvement avec le dernier livre du père Joël Guibert, intitulé « Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu avec saint François de Sales ». Je vous lis les quelques lignes de présentation de l'ouvrage. Les saints sont certainement les meilleurs médecins de l'âme humaine, les thérapeutes les plus compétents pour soigner notre mal-être profond. La doctrine est sûre parce qu'ils ont expérimenté le pouvoir curatif et pacifiant des remèdes qu'ils préconisent. Saint François de Sales, docteur de l'amour, enseigne et nous invite à l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Or, nous le savons bien, le plus compliqué dans la vie, c'est d'avancer avec simplicité et confiance. À l'école de ce docteur de la douce charité, le père Joël Guibert nous guide pas à pas pour vivre et faire grandir cette remise de nous-mêmes entre les mains du Seigneur, que ce soit par la prière ou par nos actions quotidiennes. Mûri par l'expérience, vient pour nous le moment de recueillir les fruits délicieux et les immenses bienfaits de l'union de nos cœurs avec celui de Dieu. Donc, dernier livre du père Joël Guibert qui paraîtra le 5 janvier 2022 aux éditions Artege, « Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu » avec saint François de Sales. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Pour terminer cette revue de presse du mardi 23 novembre, je vous redonne très rapidement les titres de l'actualité. J'ai commencé par vous parler de la séparation, les étapes de séparation, l'angoisse de séparation pour aider son enfant à grandir avec les conseils de Véronique Lemoine-Cordier, psychologue et psychothérapeute, conseils qu'elle a donné à l'Invisible numéro 40. Je vous ai lu ensuite l'article de Xavier Accard, directeur de Prier Magazine, intitulé « Prier avec le nouveau missel », un article assez bref et concis pour tout simplement vous expliquer les principaux changements. Culture chrétienne, je vous ai présenté deux livres des éditions Artege, donc à savoir présentation du nouveau missel romain en langue française, donc de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Je vous ai lu quelques extraits d'introduction du cardinal Robert Sarah. Et je viens de vous présenter brièvement le dernier livre du père Joël Guibert, « Le secret de la sérénité, la confiance en Dieu » avec saint François de Sales, qui paraîtra le 5 janvier 2022. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie mardi prochain.